ce ralentissement de l'intensité musicale, vous attendez la parole de Comaguerre, qui est là sous toutes ses formes, sous toutes ses incarnations, l'incarnation Roselyne, que je salue, qui est dans la cabine technique.
Bonjour à tout le monde.
Voilà, l'incarnation Habib, qui est à mes côtés, que je salue aussi. Et puis peut-être d'autres incarnations qui viendront plus tard, mais en attendant, l'équipe fidèle, elle est là. Et c'est tant mieux qu'elle le soit. Par quoi commencer ? Je vais commencer par expliquer ce que sera l'émission mensuelle de demain, qui est une émission particulière puisqu'il s'agit de voir tout ce qui se passe autour de la mer Rouge, y compris, je descends un tout petit peu au sud, puisque le golfe d'Aden, c'est la prolongation naturelle de la mer Rouge vers l'océan Indien, de la même façon que le golfe d'Aqaba, c'est la prolongation vers le sud d'Israël ou de la Palestine, plus exactement. Bon. Et autour de la mer Rouge, il y a un certain nombre d'interlocuteurs de poids et d'états de poids. Je veux parler de l'Égypte, 100 millions d'habitants. Je veux parler de l'Éthiopie, qui n'a pas tout à fait les pieds dans l'eau de la mer Rouge, mais qui les a eus et qui aimerait bien les avoir encore, 110 millions d'habitants. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria. De l'autre côté, il y a l'Arabie Saoudite qui est moins peuplée, mais qui aussi pèse son poids économique. Un tout petit peu plus loin, il y a les Émirats Arabes Unis qui ne sont pas très loin de là. Et puis le long, il y a aussi le Soudan, le Yémen, l'Érythrée, toute une série, et Djibouti elle-même, toute une série de pays. Et on s'aperçoit aux événements qui se déroulent que cette zone-là est probablement une des zones de tension les plus fortes du monde à l'heure actuelle. En raison, bien sûr, du conflit israélo-palestinien, mais en raison d'autres conflits sur lesquels donc, je m'étendrai demain dans cette émission, qui sont très très importants. Par exemple, à qui peut profiter l'eau du Nil ? Ça a l'air de rien comme ça. C'est un conflit énorme, énorme, parce que si vous n'avez pas d'eau, vous mourrez. Et quand on n'a pas d'eau, on ne meurt pas à la petite vitesse. On meurt en deux jours quand on ne boit pas d'eau. C'est ça que ça veut dire. Hein. Bon. Et donc, la maîtrise de l'eau du Nil, c'est un conflit potentiel énorme. Or, il se trouve qu'un certain nombre de pays de cette zone-là, parmi les plus importants, sont rentrés dans les BRICS le 1er janvier. Et rentrer dans les BRICS, ça veut dire éviter d'abord de s'affronter aux autres membres des BRICS, éviter que de se rentrer dans une alliance hostile, je pense à la Turquie qui aurait bien aimé aussi rentrer dans les BRICS, mais on ne peut pas être à la fois dans l'OTAN et dans les BRICS, c'est pas possible, hein, et donc ça ne le sera jamais. Hein. Et puis on peut avoir, en même temps, en étant dans cette espèce d'alliance souple, des désaccords sur telle ou telle analyse de tel ou tel conflit, ou pas avoir les mêmes relations avec un pays qu'un autre en a avec lui. Et ça se voit sur toute une série de dossiers. Mais l'esprit des BRICS, c'est de dire, on se met autour de la table, on discute et on ne se balance pas des bombes sur la figure. Bon, ouais, ça, c'est décisif pour la suite des événements. Ça ne veut pas dire qu'on a, et ce n'était pas du tout leur souci, et je réinsiste là-dessus parce qu'ils le disent autant de fois qu'il faut, on n'a pas un bloc par rapport à l'autre bloc. L'autre bloc, on sait comment il fonctionne. Washington appuie sur un bouton. Les plus ailés, comme Emmanuel Macron, répondent dans les 5 minutes. D'autres répondent un peu plus tard. D'autres essayent de ne pas répondre tout de suite. Mais enfin, le résultat est là. Il y a un bloc avec un patron et on obéit au patron. C'est clair. Bon. Les BRICS, ce n'est pas ça. Les BRICS, c'est un mode de relation internationale basé sur le respect de chacun, basé sur la non-ingérence dans les affaires de l'autre, le respect de la souveraineté de tous les membres des BRICS. Et évidemment, pas d'alliance militaire, ce n'est pas une alliance militaire, mais on ne s'inscrit pas non plus dans une alliance militaire contre l'autre membre des BRICS. Donc, c'est déjà rien que ça, c'est un facteur de paix. On ne signe pas d'alliance militaire. Ça, c'est tout à fait important. Bon, donc on en parlera demain, il y a toute une série de dossiers sur lesquels je reviendrai. Et je voulais surtout signaler que j'ai obtenu d'avoir un espèce de partner, comme on dit dans les milieux de la boxe, un sparring partner, qui est mieux que ça, puisqu'il s'agit donc de Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France à Khartoum, qui sera chez lui, mais qui par téléphone interviendra quand il le souhaitera sur tel ou tel aspect que j'aurai développé. Donc on aura une émission à deux voix, avec d'un côté donc la voix Comaguerre que vous connaissez, et puis de l'autre côté, donc depuis chez lui, Michel Rimbaud, qui donnera ses impressions. Il a été, d'abord, il est arabophone, il a été ambassadeur à Khartoum, il a été en poste au Yémen, il connaît très très bien cette région où il a fait pratiquement toute sa carrière. Donc personne mieux que lui ne peut donner une vision de longue haleine, puisqu'il est maintenant à la retraite.
Il connaît très bien la guerre de la Syrie.
Tout à fait. Ah, et il connaît très bien, puisqu'en plus, son épouse est syrienne, donc il sait très très bien de quoi il est. Donc il connaît tous ces aspects-là. Et donc on aura une émission un peu particulière, une émission en écho, c'est-à-dire je poserai des sujets sur la table, et puis lui pourra compléter, intervenir, rectifier, pourquoi pas, bien sûr. Et donc on aura une émission à deux voix d'un type un peu particulier, mais je ne voulais pas manquer une occasion de parler de cette région-là sans lui donner la parole à lui. Et en même temps, j'aurais pu attendre de pouvoir le rencontrer et tout, mais les rencontres sont difficiles. Il habite très très loin de Marseille. On a les nécessités, j'ai pensé nécessaire de parler de cette région-là parce qu'elle est en cours d'évolution très très profonde avec tous ces intervenants. Vous voyez, quand on met tout autour de la table, si j'ose dire, la table c'est la mer Rouge, l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, la Somalie et tout, il y a de l'agitation, il y a de quoi expliquer beaucoup beaucoup de choses qu'on ne nous explique pas sur les médias de grand public. Voilà. Ceci étant dit, on va parler de quelques petites nouvelles assez intéressantes et qui sont liées, en fait, qui est à la première sur laquelle je vais m'arrêter, est liée à cet phénomène-là. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dame qui s'appelle Madame Victoria Nuland. Il paraît qu'on a dit Toria dans les milieux diplomatiques, je veux bien, ça m'est bien égal. Victoria Nuland a donné sa démission. Victoria Nuland a donné sa démission, donc elle était numéro 2 du département d'État, donc de vice-ministre des Affaires étrangères, pour parler dans notre langage à nous des États-Unis, et elle l'était depuis fort longtemps. Puisque, en gros, même au moment où elle n'était... Alors, elle était aussi bien embauchée par les républicains que par les démocrates, tellement elle avait une position forte, et elle était spécialisée dans toutes les questions touchant l'Europe, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, etc. Donc, vraiment, tout ce qui s'est passé, et en particulier tout ce qui s'est passé en Ukraine depuis 2014 et même avant, c'est de la facture de Victoria Nuland. C'est elle qui a mené l'opération, c'est elle qui nous a conduits là où nous en sommes, nous, les Ukrainiens, les Russes et tout le monde qui y a autour. Elle a une responsabilité écrasante. Bon, qu'elle soit partie, ça veut dire qu'effectivement, il y a dans les cercles du pouvoir aux États-Unis un certain nombre de gens qui se posent la question en disant si on continue sur les projets qu'elle avait, elle, et avec les méthodes qu'elle avait, elle, qui étaient des méthodes extrêmement autoritaires et bon, discutables, on va avoir des ennuis qu'on ne voudrait peut-être pas continuer d'avoir. Donc la mettre de côté, c'est peut-être aller dans le sens d'une certaine désescalade sur le conflit ukrainien et sur d'autres. Ça, c'est très, très important à noter, puisque, au fond, rappelez-vous les propos qui sont fameux, puisqu'ils ont fait le tour de la Terre, de Victoria Nuland, dictant par téléphone à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev la composition du nouveau gouvernement résultant du coup d'État. Et disant, lui, on le veut, lui, on le veut pas, etc. Et disant même, c'était grossier, mais surtout pas d'intervention de l'Union européenne, c'est notre affaire à nous, c'est nous, les États-Unis, qui menons la campagne. Et Madame Nuland, elle a des racines, c'est intéressant à savoir parce qu'on ne le dit pas assez. En fait, elle est née dans une famille juive de Bessarabie. La Bessarabie, donc, c'est le long de la mer Noire, d'un côté. Ça existe, enfin, c'est encore une province aujourd'hui. Et donc, en fait, elle intervient avec des positions qui sont carrément sionistes pour mettre du désordre dans cette région-là du monde dont elle est issue et sur laquelle elle n'a jamais perdu le contact. Elle a toujours été en des postes importants et ça fait 30 ans qu'elle travaille pour le département d'État. Je ne sais même pas s'il a fait autre chose qu'être haut fonctionnaire dans l'administration des États-Unis. Donc voilà un personnage inquiétant, un personnage dangereux qui sort de la scène. Et je l'interprète, peut-être excès d'optimisme, je l'interprète comme un signe de détente. C'est-à-dire je l'interprète comme le fait qu'il y a aujourd'hui dans les gens qui sont proches du pouvoir et des décisions aux États-Unis, des gens qui se disent les façons de travailler de cette dame-là sont trop connues, elles nous emmènent dans des impasses et il faudrait peut-être qu'on évite d'aller trop profondément dans ces impasses. Ça se fait en plus en pleine campagne électorale et peut-être qu'effectivement, pour les démocrates qui l'avaient embarqué dans leur bagage, j'allais dire, c'est peut-être un poids dont ils se séparent en disant « Ouf, ben on n'a déjà plus Nuland pour hurler et pour pousser au crime en permanence ». Ce qui était son cas, manifestement.
C'est bien qu'elle est partie.
Voilà, exactement. Elle n'est plus là. Alors, je ne sais pas qui a été nommé à sa place, mais en fait, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire. Et surtout, il y avait une espèce d'acharnement dans ce personnage pour mettre du désordre typiquement états-unien partout où elle intervenait.
Ah, excuse-moi, à moins qu'il n'ait d'autres projets pour elle, non ?
Non, on n'a pas parlé. Elle a la soixantaine passée. Enfin, ça ne veut rien dire, hein, parce qu'après tout, elle pourrait être la petite fille de Biden. Enfin, la fille de Biden. Hein. Mais non, je n'ai pas entendu parler de projet. Il doit y avoir en fait aussi des rééquilibrages dans l'équipe démocrate. Je présente plutôt ça comme ça. Ils lui trouveront une porte de sortie, ou alors elle trouvera un poste dans un think tank quelconque avec un gros salaire. Voilà. Alors, elle me fait penser de plus en plus rétrospectivement à Madeleine Albright, qui était de la même veine, c'est-à-dire je mets le feu partout où je vais, et j'ai osé dire, je parle comme si j'étais Madeleine Albright, oh si il faut tuer 500 000 Irakiens, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Bon, et ça, Nuland, elle est tout à fait capable de tenir exactement le même propos, s'il faut tuer 500 000 Ukrainiens, ça n'a pas d'importance. Alors, je ne le dis pas tout à fait par hasard, parce que, en fait, bien que Zelensky et l'appareil de propagande occidentale essayent de le cacher, on est en gros dans ces chiffres-là de morts de la guerre d'Ukraine dans les rangs ukrainiens, de l'ordre de 500 000 personnes. Il y a aujourd'hui des soldats sous l'uniforme ukrainien qui ont 60 ans. Et il y en a qui en ont 17 qu'on a rattrapés par hasard parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de s'échapper. C'est ça la réalité de l'armée ukrainienne, parce qu'il faut remplir. C'est un énorme trou, 500 000 personnes d'hommes en âge actif. C'est un énorme trou. Bon. Ça, on fera le bilan après. Alors, on ne le dit pas de notre côté du mur, de l'information, mais c'est la réalité. Ensuite, puisque je suis dans la région, j'y reste pour vous dire un mot sur la Moldavie. Alors la Moldavie, c'est une ancienne république socialiste soviétique, donc ça faisait partie de l'URSS jusqu'en 1991, qui se situe donc à l'extrême ouest de l'Ukraine et qui est frontalière avec la Roumanie.
C'est ça.
La Roumanie, alors avec laquelle on a tendance à confondre les Moldaves et les Roumains. En fait, les Moldaves sincères, à part ceux qui sont au gouvernement à l'heure actuelle, disent que nous ne sommes pas des Roumains, nous sommes des Aroumains. C'est-à-dire qu'on a des affinités culturelles, linguistiques, mais nous n'avons jamais été Roumains. Et ça s'expliquait par le fait que la Moldavie était dans l'URSS et la Roumanie n'y était pas. C'était pas la même chose.
C'est un tout petit pays.
C'est un tout petit pays. Ouais. Alors, c'est un tout petit pays qui avait l'avantage pour l'Union soviétique d'être une espèce de jardin potager.
Parce que
le climat y est doux. On y cultivait des aubergines, des tomates, etc. Et donc, les soviétiques pouvaient venir y faire leur marché.
Ouais.
Bon. Alors, cette Moldavie petite, ça, je crois que c'est 4 millions d'habitants à l'heure actuelle, est en train, alors, au hasard de fortunes électorales diverses, est aujourd'hui entre les mains d'une personne qui s'appelle Madame Bainu. Oh, je mélange le nom, enfin je massacre le nom, mais qui est donc, je la compare à, et c'est pas une comparaison flatteuse, à un certain Mikhail Saakashvili, c'est-à-dire une personne éduquée en Moldavie, qui ensuite est présélectionnée par l'appareil d'État états-unien et par les services de renseignement états-uniens. Donc c'est un jeune leader, comme on dit, un young leader. Elle, on l'envoie aux États-Unis, où elle a une formation dans les meilleures universités, et on la renvoie pour participer au combat politique, et elle a remporté la dernière élection présidentielle. Donc on a la candidate des États-Unis qui est arrivée à la tête de la Moldavie. Et donc, bien entendu, l'Union européenne trouve ça très très bien. On a quelqu'un qui est anti-russe, farouchement, qui a été sélectionné pour ça. Et donc, cette Moldavie s'inquiète. Alors, pourquoi elle s'inquiète ? Parce qu'effectivement, l'Ukraine, c'est juste à côté, sur la droite. La première à droite, c'est l'Ukraine. Et puis, on n'est pas très très loin. Les premières troupes russes sur le front actuel de la guerre d'Ukraine sont à 150 kilomètres, un peu à l'est d'Odessa, au niveau de Nikolaïev et de Kherson. Et donc, il y a de bons esprits qui s'inquiètent à juste titre en disant « mais il n'est pas exclu que l'armée russe progresse jusqu'à Odessa ». Odessa dont Dmitri Medvedev lui-même, dans une récente communication, a dit « Odessa est une ville russe », ce qu'elle a depuis des décennies, des siècles même été. Bon. Et donc, quand Dmitri Medvedev dit ça, on voit bien qu'il y a une espèce d'aspiration de la Russie à dire « là, c'était la Russie, puis ça va le redevenir, et n'en parlons plus ». Et donc la Moldavie voit arriver avec une certaine crainte, et surtout les amis de la présidente actuelle voient arriver avec une certaine crainte, cette arrivée possible des troupes russes à leurs frontières. Ce qui aurait le problème, c'est que ça compliquerait encore les affaires, parce que la Moldavie est en fait coupée en deux, alors deux parties très très inégales, la Moldavie dirigée par cette dame, et puis un tout petit morceau de territoire, qui est une espèce de bande, le long d'un fleuve qui se jette dans la mer Noire, qui s'appelle le Dniestre, ne pas confondre avec le Dniepr, hein, et dans ce petit territoire qu'on appelle la Transnistrie, donc au-delà du Dniestre, il y a certes 200 000 personnes, je crois, qui pour la majorité d'entre eux sont des Russes et sont des pro-Russes. Et puis il y a des soldats russes qui sont là depuis longtemps, depuis 1991, qui n'ont pas bougé, ouais, hein, mais qui sont armés. Et donc, effectivement, il y a une réelle inquiétude dans l'équipe dirigeante de Chisinau, donc de la Moldavie, de dire si jamais l'armée russe approche par l'Est et que les gens qu'on a, nous, sur notre propre territoire, dans cette Transnistrie, font leur fusion, on s'en sortira pas, c'est-à-dire que la Moldavie est menacée.
Est-ce qu'elle est inscrite pour l'Union européenne?
Non. On a fait croire, on a dit ça serait bien qu'eux, etc. Mais ouais, enfin, ils n'y sont pas rentrés. Non, et puis on sait que les processus d'intégration à l'Union européenne sont des processus très longs. Hein, et donc, mais là, disons, ce genre de menace a été formulé, mais ça n'a pas, pour l'instant, ça n'a pas bougé beaucoup plus. Et puis on sait que c'est fragile, puisqu'il suffirait que cette dame qui a gagné de peu les élections présidentielles perde les suivantes, ou son équipe, pour que les choses soient... Parce qu'il y a une très très forte minorité qui n'est pas pro-européenne et qui est plutôt pro-russe, en dehors des habitants de la Transnistrie. Donc tout ça reste... Mais ce que je voulais signaler, c'était que Emmanuel Macron s'est jeté sur cette pauvre femme, si j'ose dire, bon, pour dire « je vous aime, hein, je vais vous aider », a dit qu'il avait signé un pacte d'assistance, etc. Enfin, voilà, la France est mobilisée pour la Moldavie, et si jamais, alors on peut imaginer que si jamais, par mégarde, un pied d'un soldat russe mettait le pied sur le sol de la Moldavie, nous enverrions nos troupes. Voilà, parce que c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir cet échange avec cette personne, comme il y a eu les mêmes types d'échanges avec Zelensky récemment, en disant « je suis prêt à aller au combat pour vous ». Bon, alors, par rapport à ça, je m'arrête un tout petit peu, parce que c'est quand même les affaires françaises. Il faut savoir que cette mise en scène d'une France en guerre contre la Russie, en Moldavie, pourquoi pas en Pologne, évidemment en Ukraine, avec le seul appui... Alors, tenez-vous bien, parce que c'est presque risible. C'est une farce. Les seuls alliés que Macron s'est trouvés, ce sont les républiques baltes, c'est-à-dire quatre chats, farouchement russophobe, mais comme à un niveau jamais atteint, hein, qui représente peut-être en tout 4 millions de personnes, dont la plupart n'ont qu'un souci, c'est de fuir à l'ouest et de ne pas rester dans leur république de Lituanie ou de Lettonie ou d'Estonie. Hein. Voilà les seuls alliés, je ne peux pas dire sérieux, voilà les seuls alliés non sérieux que Macron a trouvé pour sa croisade, hein, pour ses croisades. Bon. Alors quand on sait... Alors c'est là qu'est l'ironie et même la... L'inquiétant état mental du personnage. La France est parmi les pays d'Europe celui qui a le moins donné d'argent et d'armes à l'Ukraine. Alors on en a parlé de nos Césars, etc. Mais quand les comptes sont faits et les voisins font les comptes, les Anglais, les Allemands disent « mais vous n'avez pas donné grand-chose ». Alors ça, on ne vous le dit pas sur TF1, on ne vous le dit pas sur Antenne 2, mais la France est des pays d'Europe celui qui crie le plus fort contre les Russes et qui fait le moins. Donc on a une espèce de discours incohérent, un personnage qui rêve dans sa tête, qui rêve à micro ouvert dans toutes les télévisions du monde et qui, je le dis, est en train de faire passer la France pour un état ridicule. D'ailleurs, c'est ce qu'en pensent les citoyens français dans une grande majorité, mais on ne leur laisse pas le dire. Bon. Ouf! Il fallait quand même que ce fût dit. Je regarde l'heure tranquillement. Et puis, pour rester dans des sujets... Alors, on va aborder plus tard la question de la Palestine et de Gaza un peu plus largement. Que voulais-je dire? Ah oui, je voulais donner un peu la parole ou tendre un bâton à Roselyne pour parler de l'accueil qui est fait à la proposition de M. Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, pour être candidat aux prochaines présidentielles. Donc le sujet est sur la table parce que M. Laurent Gbagbo a déclaré qu'il était d'accord pour être président au nom de son parti, du parti qu'il a créé, à la prochaine élection présidentielle. Alors ça suscite un certain nombre de commentaires, ça nécessite un certain nombre de commentaires. Alors je te laisse les faire en premier. Alors Première chose, d'abord, la présentation qui est faite de cette candidature, selon certains médias, est trompeuse, puisque, par exemple, tu as cité le cas, on présente M. Laurent Gbagbo comme ayant bénéficié d'un non-lieu à la Cour pénale internationale. Trafic de l'information, c'est totalement faux. Un non-lieu, soyons clairs, les mots valent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un non-lieu, c'est le fait qu'un tribunal considère qu'il a devant lui un accusé et il n'a pas d'éléments de preuve disant qu'il mérite vraiment de l'être, et finalement il dit « j'arrive pas à juger, donc non-lieu, j'abandonne parce que je ne peux pas dire s'il a tort ou il a raison, je n'ai pas les moyens de le vérifier ». Ça, c'est un non-lieu. Ça laisse le doute à un non-lieu politiquement. Ce monsieur a peut-être commis des horreurs, mais on n'a pas pu les démontrer. Il y a des voix contraires. Bon, on s'arrête là. Le tribunal jette le gant, j'allais dire. Hein, je ne peux pas. Bon. Et puis l'acquittement, ça c'est ce dont a réellement bénéficié M. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire qu'il a été lavé de toutes les accusations qui avaient été portées contre lui. Il est innocent. Hein, voilà. Ça c'est très très important. Alors, quand déjà un média français, je ne sais plus lequel utilisait ce biais de... Peu importe. Enfin, il fait dans le traficage d'informations. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu un non-lieu. Les mains de Roland Gbagbo sont propres. Hein. Il n'y a absolument rien à dire. Et personne ne pourra jamais rien dire. Il est passé en première instance. Il est passé en appel à la Cour pénale internationale. On a fini par le laisser rentrer chez lui avec beaucoup de difficultés. Et maintenant qu'il est chez lui, où il est propre... à l'inverse de la direction actuelle de la Côte d'Ivoire, il dérange, parce que la propreté dérange. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. D'une façon générale, dans notre monde occidental en mauvais état, la propreté dérange. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas propres. C'est pour ça qu'ils sont très très gênés quand ils ont affaire à quelqu'un de propre. Laurent Gbagbo, ce n'était pas un révolutionnaire communiste qui partait les armes à la main. C'était non. Quelqu'un qui disait « j'ai une parole, je respecte tout le monde, indépendamment de sa classe sociale, etc. » C'était tout. Mais c'était énorme. C'était énorme parce qu'il disait « je respecte aussi bien un blanc qu'un noir, je respecte aussi bien un juif qu'un chrétien, etc. » C'était ça, sa parole. Mais c'est une parole qui vaut de l'or aujourd'hui. C'est une parole de non-division, de respect de chacun. Et donc, ça, c'est ça qui dérange.
Oui, et puis, il était et il est uniquement concerné par le peuple.
Tout à fait.
Voilà, le souci du peuple.
Je suis là, voilà.
Et ça me fait penser à un article que j'ai lu aujourd'hui sur Hugo Chavez, qui disait exactement la même chose.
Voilà. Hugo Chavez. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Et donc, on en est là, donc, de la candidature. Ça ne veut pas dire qu'il sera effectivement candidat, mais la simple annonce de sa candidature fait qu'on a tout de suite les tirs de barrage, puisqu'en fait, le dirigeant actuel de la Côte d'Ivoire, son ennemi intime, M. Alassane Ouattara, avait anticipé son retour. Il savait bien qu'au niveau du procès, il allait perdre Ouattara. Et donc, il avait prévu, puisqu'il avait prévu les chausse-trappes et les difficultés pour le retour de M. Laurent Gbagbo dans son pays. Du genre, je lui impute encore autre chose, qu'il sera jugé devant les tribunaux ivoiriens et donc il ne va pas pouvoir se présenter, etc.
Oui, c'est ça. Il est, en fait, aujourd'hui, il serait inéligible du fait qu'il a été condamné pour des histoires de casse de la Banque Centrale Africaine, etc., qui sont bien sûr totalement fausses.
Voilà.
Mais néanmoins, comme la Cour pénale internationale l'a innocenté sur tout, il est également innocent sur ce point-là.
Voilà. Mais donc, en fait, de mauvaise foi, la direction de Ouattara peut dire effectivement il est inéligible, alors qu'effectivement l'affaire est classée.
Donc il va se battre pour être à nouveau éligible, et il va se battre aussi, enfin lui et son parti, le PPACI, pour refaire une nouvelle commission électorale indépendante qui ne l'est pas jusqu'à aujourd'hui.
Voilà. Donc ça, c'est très important à suivre, avec tout ce qui se passe en plus au nord du pays, je veux dire Mali, au Niger et au Burkinabé, et au Burkina Faso. Et je signale au passage que, parce que c'est bien que les choses soient clarifiées, la milice Wagner n'existe plus. Aujourd'hui, ça s'appelle l'armée russe d'Afrique, c'est-à-dire un corps militaire où ont été embauchés un certain nombre de soldats qui étaient des salariés de Prigogine et de Wagner, sous la direction d'un monsieur qui est simplement vice-ministre des Affaires étrangères à Moscou. Hein. Donc on a une clarification absolument nette et ça coupe court à toutes les accusations. C'est les miliciens de Wagner, c'est les types qui n'ont ni foi ni loi, qui voient que l'argent et tout. C'est terminé ça. Aujourd'hui, il y a un corps spécial de, de l'armée russe qui intervient dans la zone du Sahel, non seulement les trois pays que j'ai cités, mais également en République centrafricaine. Les choses sont beaucoup plus claires. Ça évite de ces débats sur oui, mais Prigogine, c'était d'ailleurs un drôle de personnage, hein, paix à son âme. Hein. Mais c'est fini, ça, c'est fini. Donc, une partie des savoir-faire militaires de Wagner ne sont pas perdus, puisqu'il a repris beaucoup, beaucoup de gens qui y étaient. Ils ont trié. Au passage, entre ceux qui étaient douteux et ceux qui n'étaient pas, ceux qui étaient des vrais soldats, puis ceux qui étaient là pour faire des affaires, il y en avait aussi. Parce que quand on est dans une milice et qu'on veut profiter de faire quelques rapines et du pillage dans les villages, on n'est pas beaucoup brimé pour ça. C'était ça l'ambiguïté de Wagner. Ça, c'est terminé. Hein. Alors, d'ailleurs, on ne nous le resserre plus. On ne le resserre plus, Wagner, parce que le camp occidental le sait, donc on ne parle plus de Wagner. Mais par contre, ils n'ont pas expliqué ce que c'était maintenant que l'armée, le corps d'armée russe pour l'Afrique. Il existe. Hein, et il est mené donc par un dirigeant officiel de la Russie. C'est bon à préciser. Ensuite je voulais... dans tout ce que j'avais prévu... Non, Gbagbo, je l'ai prévu. Non. Oui, alors, non, on va passer directement à notre gros dossier sur la Palestine, Gaza, Israël. Mais je vais vous mettre en appétit en vous faisant écouter une petite musique qui rappellera, c'est une vieille musique, mais qui rappellera des souvenirs à certains, qui est tout à fait adaptée, j'expliquerai pourquoi, à la situation que nous vivons sur le front humanitaire. Écoutez bien et retenez bien les paroles et j'insisterai peut-être sur certaines d'entre elles.
Patronesse, il faut avoir l'œil vigilant, car comme prouvent les événements, 89 tue la noblesse, car comme prouvent les événements, 89 tue la noblesse, et un point à l'envers. Un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Pour faire une bonne dame patronesse, il faut organiser ses largesses. Car comme disait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Car comme disait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Et un point à l'envers, et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Pour faire une bonne dame patronesse, il faut être bonne, mais sans faiblesse. Ainsi, j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui ferait compter un socialiste. Ainsi, j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui ferait compter un rouge. Et un point à l'envers, et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Pour faire une bonne dame patronesse, mesdames, tricoter tout en couleur cacadois, ce qui permet le dimanche à la grand-messe de reconnaître ses pauvres à soi, ce qui permet le dimanche à la grand-messe de reconnaître ses pauvres à soi. Et un point à l'envers, et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas.
Voilà, alors je vais explication. Alors, une dame patronesse, c'est un concept qu'on n'utilise plus tellement. Mais en fait, c'était quelqu'un donc, qui appartenait à la classe dirigeante. Fut-elle, par exemple, s'est évoquée une noble qui, après la révolution de 89, bon, continue à être noble, elle est de quelque chose, mais elle on dirait, elle n'en fait pas trop quand même, mais elle essaye de garder une influence et elle se fait à travers l'action charitable envers les pauvres. Et les pauvres, on leur dit, regardez comme nous, aristocrates qui avons perdu le pouvoir, regardez comme on est resté humain malgré tout. C'est ça que ça veut dire. Et donc la sélection de pauvres faisait partie du travail et la dame patronesse se tenait souvent à la sortie de la messe du dimanche. Et là, elle distribuait ses aumônes à ceux qui venaient tendre la main en sachant qu'il y aurait quelque chose de distribué. Hein, parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient... Et elle savait. Mais pas n'importe qui, puisque vous avez noté le couplet, elle dit « Oui, mais attention, je sélectionne mes pauvres, parce qu'il y a des pauvres inquiétants qui sont en train de pencher vers le socialisme, alors ceux-là, qu'ils crèvent de faim, je ne donnerai rien. Hein, » t'as entendu ça. Et puis... Ça, c'est les largesses. Et puis à la fin, je fais mon camp, c'est-à-dire que je veux que les gens à qui je fais la charité, à qui je donne l'aumône, me soient reconnaissants et soient reconnaissables. Qu'on puisse dire, Madame de Machin a donné plus que Madame Truc et il y a plus de gens en tenue cacadois qu'en tenue vert olive. On en allait là. C'est-à-dire, j'ai sous la main un certain nombre de pauvres que je sors de la misère. Et comme ça, je reviens au couplet précédent, ils ne deviendront pas socialistes. Ni ne seront influencés par les rouges. Je les tiens dans mon orbite idéologique, par la faim. Bon. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi je faisais passer ce morceau avant de vous parler de Gaza ? Ben non, évidemment, vous avez compris. Parce qu'on en est rendu exactement dans la même situation à l'échelle contemporaine. J'explique. Quand effectivement, la Cour internationale de justice, le 26 janvier, dit... Toutes les caractéristiques d'un génocide sont réunies. Ils sont en train de mourir de faim, ils ne peuvent plus se soigner, ils n'ont plus d'eau, etc. Bon. Quelle est la réponse ? La réponse est surtout ne pas arrêter le massacre, surtout ne pas interdire et couper les vivres à Israël, mais donner une espèce de consistance à ce refus de l'horreur qui se répand sur la planète entière. C'est-à-dire qu'il y a tellement de milliards de gens qui disent « c'est inacceptable ce que vous faites aux Gazaouis et aux Palestiniens » qu'on se sent... Enfin, ils, je veux dire, les dirigeants de l'Occident, États-Unis en tête, mais France, Allemagne, etc., et Israël, ça, ils se sentent un peu gênés aux entournures. C'est-à-dire qu'ils continuent à massacrer tous les jours 100, 200 personnes, sans vraiment se restreindre en quoi que ce soit. Mais en même temps, ils voient bien qu'on dit « mais vous êtes en train de massacrer des innocents, des femmes, des enfants, et tout ça est connu ». Et donc, du fait qu'ils sont coincés parce qu'ils ont peur que, d'ici quelques jours, ce qui ne va pas tarder maintenant, la Cour internationale de justice confirme qu'effectivement, le génocide est accompli. Hein, et donc, ça passerait à une autre étape de la crise actuelle. Ils font le geste humanitaire consistant à dire « mais non, ils ne mourront pas de faim puisque nous leur avons donné de quoi boire et de quoi manger ». Et voilà. Et c'est ça la comédie. Je dis bien le mot comédie, la comédie des parachutages qu'on a vu se commencer et puis qui va se suivre avec la comédie du bateau. Je vais m'y arrêter. Alors la comédie des parachutages, vous avez suivi, d'ailleurs, ça a commencé, alors c'est les Jordaniens qui ont lancé l'affaire, la France a fait un petit geste aussi avec un avion français parti de Jordanie et tout, et puis maintenant c'est les États-Unis qui parachutent. Alors ils parachutent pas grand-chose, ils parachutent un peu n'importe comment, parce que vous lâchez d'un parachute à 2000 mètres d'altitude, ça tombe où ça peut, y compris ça tombe sur la tête des gens que ça peut tuer, ça tombe dans l'eau, bon c'est pas grave, hein. Mais on peut dire, moi j'en crois pas un mot, mais ces braves gens, j'en crois pas un mot non plus de l'expression, vont arriver devant la Cour internationale de justice et devant toutes les caméras de Liban, disant « Regardez, j'ai fait des gestes humanitaires, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'ils ne meurent pas de faim. » Alors que tous les jours, il y a des centaines de tonnes de bombes qui leur sont tombées sur la tête. Hein, bon, c'est ça la mécanique. Alors ça commence par les parachutages, et puis ils se sont aperçus au bout d'un certain temps que les parachutages, ça amenait pas grand-chose, y compris il y avait des erreurs de tir, ça tuait des gens, et puis... tout le monde n'avait pas accès à un parachute qui arrive. On dit, il y a un colis, il y a de quoi manger. Mais manifestement, la taille du colis qui sort du parachute, vous en avez vu. Voilà. Les gens qui sont là, qui attendent parce qu'ils ont faim, ils disent, eh ben, si j'arrive à rattraper le colis, tant mieux. Et donc, on va se faire entrebattre des gens qui meurent de faim pour un colis où il n'y aura peut-être que de la nourriture avariée, ce qu'on ne sait même pas.
Cela prouve que les Américains sont impliqués dans...
Ah, mais directement, mais voilà. C'est eux qui font le tout, même.
Ils ont peur d'être dans le tribunal international.
Oui, exactement, exactement d'être complices de génocide. C'est bien ça qu'il y a derrière. C'est bien ça qu'il y a derrière. J'insiste là-dessus parce que c'est pas tellement expliqué dans la presse. Leur trouille, c'est ça, c'est que la CIJ soit dans l'obligation, parce que ce sera incontournable de dire, effectivement, le génocide, on l'a prévu, il a été annoncé, vous n'avez pris aucune mesure sérieuse pour l'empêcher, c'était le cessez-le-feu d'arrêter les combats, et donc le génocide est commis. Et à ce moment-là, il y aurait, je rêve devant vous, mais un jugement définitif, ben voilà, on leur a dit de ne pas commettre le génocide, on leur a dit ce qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait quand même, et donc maintenant le génocide est commis. Et donc on aurait deux puissances, les États-Unis et Israël, qui seraient coupables de génocide à la face du monde.
C'est ça. Bon.
Donc éviter ça, ça veut dire fabriquer le mensonge, mais regardez comme on est humain, hein, regardez comme je suis une bonne dame patronesse, je reviens à ma chanson, regardez, hein, ces pauvres Gazaouis, ah, je pleure dessus comme vous le faites, hein, j'envoie de quoi manger, j'envoie des médicaments, etc. Bon, il n'y a pas d'hôpital, c'est pas grave, on ne peut pas les soigner, c'est pas grave. Hein. Donc je fais croire que je fais de l'humanitaire, de la main droite et de la main gauche, j'envoie tous les jours des bombes et des missiles, etc. C'est ça la réalité. Bon. Et donc, je ne veux pas montrer ce que fait la main gauche, et donc je parle de la main droite pour dire « regardez comme je suis humain ».
Oui, cela prouve aussi qu'ils ont essayé au départ, il y a quelques jours, d'avoir un cessez-le-feu provisoire.
Provisoire, ouais, exactement. Voilà. Ouais, ouais. Rapproche-toi du micro.
Oui,
oui. Oui, surtout pas. Alors, oui, surtout pas. C'est un vrai cessez-le-feu non provisoire, alors qui permet de réapprovisionner et tout, etc. Bon, et donc, c'est pas fait. Donc, on arrive à la conclusion qui a été assez vite tirée, même par les journalistes un peu neutres, en disant bon, les parachutages, ça va pas bien loin, ça, c'est pas beaucoup de quantité. Et donc, on en arrive à l'idée du port. Parce que. Effectivement, Gaza, c'est au bord de la mer Méditerranée, et donc il est possible de faire arriver des bateaux à Gaza. Alors, il n'y a pas de port, alors il n'y a pas de vrai port avec des quais, des digues, etc., comme il aurait pu en avoir, parce que, je le rappelle, il y a de ça quelques années, je n'ai plus la date en tête, l'Union européenne avait décidé de construire un port à Gaza, et elle avait commencé les travaux de génie civil, donc construire des digues, etc. Les travaux de génie civil ont été bombardés par l'Israël, et l'Union européenne s'est tue, n'a rien dit.
Hein, ouais.
N'a rien dit. Ah, ça, il faut s'en souvenir aussi, parce qu'après, on donne des leçons. Hein. Bon, effectivement, il est normal, Gaza pourrait avoir un port. Donc, c'est la côte s'y prête, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui est en train de se préparer? Alors là aussi, il y a un grand renfort d'image et de bons sentiments humanitaires. Regardez, c'est vrai qu'on a conscience que les parachutages, c'est un peu léger, c'est pas très sûr, il n'y a pas des quantités suffisantes, etc. Ça, on a tous compris. Donc, on va faire venir des bateaux entiers. Et là, ça sera des grosses quantités. Il y aura à nourrir tous les morts de faim. Bon. Mais évidemment, on ne fait pas un port comme ça sur une plage avec rien. Donc, il faut un certain temps. Alors, on annonce ça, on. C'est pas on. Joseph Biden lui-même, c'est un des morceaux de bravoure de son discours sur l'état de l'Union lui-même. Vous savez que le discours sur l'état de l'Union, c'est le grand discours programmatique du président des États-Unis une fois l'an. C'est très très important, qui a pris le temps de consacrer quelques minutes à ce sujet. Regardez, je vais envoyer, on va permettre l'accès de navires humanitaires à Gaza. Alors, tout de suite, on respire pour les pauvres. Hein. La dame patronesse, elle va élargir son champ d'action. Elle va nourrir encore plus de gens. Alors après, bien sûr, les spécialistes qui se penchent sur ce travail, donc israéliens d'un côté et états-uniens de l'autre, on ne demande rien aux Palestiniens. Hein. Par contre, c'est la côte de Gaza, mais on n'aura pas demandé leur avis. Ils disent qu'il faut quand même au moins 2 mois pour mettre ça en place. Il faut trouver le circuit d'où ça part. Alors, ça va partir de Chypre, où il y a, vous savez, une base anglaise qui est extraterritoriale. Je signale que la décolonisation de Chypre par les Britanniques a consisté à donner presque tout le territoire aux Chypriotes et à garder une partie du territoire pour 2 bases militaires importantes. Bon, donc l'aide passerait donc par Chypre, et de là, les bateaux, quels qu'ils soient, seraient loués pour apporter de la nourriture sur ce futur port. On n'en est pas là. on n'en est pas là, et il faudra le temps. Donc pendant 2 mois, j'allais dire cyniquement, combien de Gazaouis vont mourir de faim pendant ces 2 mois ? Ça n'a pas d'importance, mais la dame patronesse est là, regardez comme je suis généreux, je vais maintenant envoyer des bateaux, parce que les parachutages, c'était vraiment un peu...
Il ne faut pas oublier que les Gazaouis ne veulent pas quitter Gaza, même crever, quitte à crever.
Non, ils restent chez eux, ça c'est clair. Et puis de toute façon, en plus, l'Égypte ne les laisse pas sortir, donc l'Égypte a prévu une espèce de camp, une espèce d'énorme camp sur la bordure, mais de toute façon, ils ne peuvent pas y accéder, puisque entre les troupes égyptiennes et la frontière de Gaza, il y a des citoyens sionistes qui sont là pour empêcher que la sortie soit possible. Bon, donc, il n'y a pas d'issue de ce cas-là. C'est pour ça que les dames patronesses sont obligées de prévoir de passer par la mer, où là, il n'y a pas d'obstacle. Bon. Alors, ça sera peut-être...
Oh, il se trouve actuellement, j'ai entendu parler,
oui,
qui vont envoyer ces bateaux, mais qui vont être stationnés au large.
Voilà.
Au large de Gaza.
Au large de Gaza.
Dans un périmètre, je ne sais pas combien de kilomètres, 3 kilomètres, je crois.
Parce qu'effectivement, il s'agit d'une plage en pente douce, Gaza, effectivement, des bateaux d'un certain tonnage ne peuvent pas accéder. Donc, il y aura un relais avec des espèces de chalands de débarquement qui viendront jusqu'à un port artificiel. Alors, les ports artificiels, c'est vrai que les armées en campagne savent les faire. Il y a le matériel pour toutes les armées, enfin, les grosses armées du monde savent le faire, et les États-Unis ont le matériel pour faire ça. Donc, faire une espèce de quai provisoire métallique à bordure sur la bord de la page, d'où vont venir ces chalands de débarquement chargés de ce qui sort des bateaux. Mais là où ça devient d'un cynisme absolu, c'est qu'il faut savoir à quel endroit vont s'arrêter les bateaux en question amenant de la nourriture. Ils vont s'arrêter précisément à l'endroit où l'Égypte et Israël ont découvert un gisement de gaz sous-marin. Et donc, voilà, ils seront installés exactement à cet endroit-là. Donc, il y aura un port spécial pour bien faire comprendre aux Palestiniens que c'est toujours pas chez eux. Et que c'est alors, et là, j'insiste, parce que le partage de cette ressource gazière, il est fait entre Israël et l'Égypte.
L'Égypte
qui a un rôle très, très ambigu sur cette histoire-là. Bon, ça veut dire que l'Égypte est complice du fait que le jour où il y a un État palestinien, qui, je le pense, n'est plus très très lointain maintenant, quitte à me tromper, le jour où il y a un État palestinien, cette affaire du gaz sous-marin disparaît dans les décombres. C'est-à-dire qu'en fait, ce gisement de gaz est dans les eaux, futures eaux territoriales palestiniennes, et il appartient aux Palestiniens, point à la ligne. Après, ils verront s'il faut exploiter par les Égyptiens qui en ont les capacités, c'est bien possible. Hein, mais ça sera autre chose, ça sera un sous-traitant du gouvernement palestinien qui dira « Ok, je vous embauche pour exploiter mon gaz et je partage les recettes avec vous ». Ça, c'est pour la suite. Alors, vous allez dire, il rêve comme un guerrier, rêve tout haut. Mais non, c'est peut-être pas si loin qu'on ne croit. C'est peut-être pas si loin qu'on ne croit, parce qu'effectivement, les contradictions dans le camp des dames patronesses sont à un niveau très, très élevé. Et puis, y compris les opinions publiques dans les pays des dames patronesses, parce que c'est pas n'importe quel Français ou n'importe quel Anglais ou n'importe quel Américain qui a cette mentalité. J'aide les pauvres pour qu'ils me soient redevables. Pour les transformer en esclaves. C'est ça, c'est ça la dame patronesse. Ce sont mes serviteurs. Ça, voilà. Ça, dès l'instant où on a un respect de l'autre comme égal humain, on ne le fait pas. Bon, et donc, je pense qu'il y a dans nos pays occidentaux encore pas mal de gens qui sont capables de comprendre ce raisonnement-là, tout autant qu'on leur explique. Car évidemment, vous n'attendez pas, et je n'attends pas des télévisions et des médias de masse qui nous expliquent ce mécanisme. Une perversion extrême qui consiste effectivement... La charité, ça consiste à faire un obligé. C'est tout à fait clair. Et on le sait depuis très très longtemps. Le problème, c'est que ça continue et qu'on habille ça sous les droits de l'homme, la sympathie, l'empathie, etc. Oui, tout ça, c'est un gros mensonge. Bien. Donc, on en est là des affaires humanitaires, et c'était bien d'essayer de les clarifier pour ce qu'elles sont réellement. Et je vais alors finir sur ce thème par vous expliquer le sommet de ces affaires de poids, de mesure. Hein, la main droite qui fait un peu la charité et la main gauche qui envoie des armes. Le Trésor, le département du Trésor des États-Unis, donc on dirait le Bercy, le ministre des Finances du gouvernement Trump, est en train de lancer des emprunts du gouvernement Biden, de lancer des emprunts pour financer Israël.
Ouais.
Donc, écoutez bien, c'est le ministère des Finances du gouvernement Biden qui fait des emprunts pour les envoyer l'argent en Israël. Bon. Alors, il y a trois tranches qui sont prévues. Une tranche de 2 milliards, ce qu'on appelle des bons, donc vous empruntez, et vous avez des intérêts que vous touchez. Alors, il y a une tranche de 2 milliards à 5 ans, il y a une tranche de 3 milliards à 10 ans, et il y a une tranche de 3 milliards à 30 ans. Tout ça, 2 et 3, ça fait 8 milliards. Ça fait 8 milliards donc, d'emprunts qui vont aller directement. Donc, vous avez un emprunt comme ça, quelqu'un va à la banque et souscrit en disant « j'emprunte tant », et puis le lendemain ou dans les jours qui suivent, ça va assez vite en général, Israël reçoit l'argent. C'est-à-dire Israël va recevoir 8 milliards de dollars empruntés sous couvert des États-Unis qui garantissent le remboursement. Qui garantissent, vous entendez l'horreur, c'est-à-dire que les États-Unis empruntent pour donner de l'argent à Israël et ils disent aux prêteurs éventuels, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des doutes en disant est-ce qu'Israël c'est très très sûr pour prêter de l'argent, le gouvernement des États-Unis dit si Israël ne rembourse pas, je le ferai moi. Donc on ne peut pas être plus clair sur la dépendance totale d'Israël par rapport aux États-Unis. Parce que ces 8 milliards, manifestement, si l'emprunt est lancé, c'est qu'Israël en a besoin. Israël en a besoin pour fabriquer, faire sa guerre et acheter tous les équipements militaires dont il a besoin.
La continuité de la guerre.
Tout à fait, assurer que ça dure. Alors, pour aller jusqu'au bout de cette information, qui est, alors ça, ce n'est pas beaucoup repris, ça, on ne vous l'expliquera pas à la télévision, alors que c'est très très clair, hein. Les États-Unis empruntent pour Israël et s'engagent à rembourser si Israël fait défaut. Bravo. Si Israël même disparaît.
Oui, c'est excuse-moi, vas-y. Mais si le prochain gouvernement n'est pas celui de Biden, est-ce qu'il...
Trop tard.
Ils seront obligés de rembourser quand même.
Ah oui, oui.
Ah d'accord.
Ah oui, parce que les prêteurs diront, moi j'ai prêté, on m'a dit que c'était les conditions, c'est tout. Donc ça suit. Ah oui, il n'y a pas de souci. Et alors, j'ajoute que c'est quand même tellement peu appétissant ces emprunts pour Israël. Je dis bien appétissant, parce que les gens qui payent... il faut qu'on majeure le taux par rapport au taux des autres bons du Trésor états-unien de 1,35% pour l'emprunt à 5 ans jusqu'à 1,75% pour l'emprunt à 30 ans. C'est-à-dire que si, en plus, il n'y a pas ce supplément d'intérêt, les prêteurs vont dire « l'État d'Israël, ce n'est pas très, très sûr, etc. Moi, je ne prête pas mon argent à Israël. » Parce qu'ils peuvent, par exemple, à longueur d'année, prêter à l'État des États-Unis directement. L'État des États-Unis fonctionne comme ça très, très souvent. Bon. Donc, je voulais insister là-dessus en disant qu'on vous fait passer du temps, on vous fait verser une larme, on vous fait vous émouvoir pour les convois humanitaires et le port de Gaza, etc. Et dans le même temps, les États-Unis sont en train de faire envoyer 8 milliards de dollars à Benjamin Netanyahou et à son équipe meurtrière. C'est ça la réalité, c'est pas autre chose. Alors, il y a, évidemment, c'est déséquilibré, il y a deux poids, deux mesures, c'est clair, mais on ne nous le dit pas, on ne nous le dit pas. C'était, je pensais, utile.
De toute façon, même la frontière jordano-israélienne, elle est ouverte.
Mais bien sûr.
Et beaucoup de marchandises qui vont en Israël, ils sont alimentés. Bon,
tout à fait.
Par un pays arabe.
Voilà. Alors ça, c'était pour faire le clair donc sur ces opérations, enfin sur le déséquilibre entre l'affichage humanitaire dont on va nous régaler à longueur de journée d'écoute d'antenne dans les médias officiels, et puis la réalité de ce qui se passe, c'est-à-dire que Israël ne peut continuer son opération que s'il a ses 8 milliards. Autrement, il est obligé de s'arrêter. Ça serait tellement simple. Donc vous fermez le robinet et ça s'arrête. C'est tout. Ça, alors, ils ne sont pas prêts à le faire, mais c'est intéressant de regarder les besoins. C'est-à-dire, Israël n'a pas besoin de 4 sous. C'est 8 milliards de dollars qui sont prévus.
Et ils ont au point de vue économique, Israël est déficitaire, je ne sais pas combien.
Oui, très déficitaire. En plus, le commerce extérieur est quand même ralenti par la difficulté d'accès à la mer Rouge et tout. Bon, tout ça fait qu'effectivement, les difficultés sont réelles et qu'on a affaire à un combattant artificiel qui est maintenu artificiellement en guerre parce qu'il n'est plus capable de la mener avec ses propres moyens, si jamais il en a eu. Bien. Alors, je voulais dire quelques mots, ça fera plaisir à Bib aussi, sur la Syrie.
Excuse-moi, juste une question, excusez-moi. Par rapport à l'UNRWA, tu sais, la mission humanitaire de l'ONU, il y a un rapport qui est sorti, qui va sortir, je ne sais pas, qui dit que les accusations disant que les personnels de l'UNRWA qui étaient de mèche avec le Hamas, c'est faux et archi-faux.
Tout à fait. Ils ont trouvé une personne, donc sur les 30 000 salariés de l'UNRWA, en gros, ils ont trouvé une personne qui apparemment aurait été proche du Hamas ou même au Hamas. Ouais. C'est tout à fait possible.
Et du coup, est-ce que l'UNRWA a eu ses financements
Il y a eu une évolution des positions. Alors, il y a des financements qui ont été rétablis. Je pense au Canada, je pense à l'Union européenne qui a rétabli ses financements. Et il y en a d'autres qui n'ont pas bougé, comme les États-Unis. Bon, ça, c'est clair. Donc, il y a eu une petite évolution de ce côté-là, parce qu'effectivement, il y a des organisations qui se sont dit « ça, là, c'est pas très présentable de dire qu'on les laisse mourir de faim ».
Il manque beaucoup.
Puisque le directeur général de l'UNRWA, donc, qui est un haut fonctionnaire de l'ONU, qui est français, qui s'appelle Alessandrini, a dit qu'effectivement, il ne tenait pas jusqu'à la fin de février. Alors apparemment, les apports renouvelés de l'Union européenne lui permettent de passer le cap, mais pas plus. Il est à quelques jours, il voit ses finances à 8 ou 10 jours, pas plus. Et puis, il faut encore que ce qui peut acheter puisse rentrer. C'est-à-dire qu'on laisse passer, en particulier côté israélien. Parce qu'il faut savoir que les dons qui arrivent en Palestine, alors je mets des guillemets, parce qu'ils arrivent en Israël, c'est-à-dire le contrôle douanier, pas la Palestine, c'est Israël. Et donc Israël peut faire là ce qu'il fait, c'est-à-dire retarder des arrivées d'envoi humanitaire. Puisque c'est Israël qui tient le robinet. C'est bien ça qu'il faut voir. Et donc, effectivement, il peut y avoir beaucoup de gens qui rétablissent les dons, mais les produits correspondant aux dons peuvent mettre des semaines et des semaines avant d'arriver.
Le banquier, c'était Israël pour la Palestine.
Bien sûr, le banquier, et le douanier.
Voilà. Tout, exactement.
Et oui, mais ils ne sont pas souverains. Donc, non. Ils sont colonisés, c'est parfaitement clair. Donc il y a une petite évolution, mais on est loin du compte. Et puis, on reste, alors, j'allais dire, je reviens sur le mécanisme des dames patronesses. L'UNRWA ne sait jamais que la dame patronesse de l'ONU. Alors, qu'on imagine que fin 49, début 50, quand on était juste un an après la création d'Israël, après un an de la Nakba et tout, on dise, on leur fait la mendicité temporairement. Acceptons. Mais c'est une mendicité qui dure depuis 1950. C'est un système maintenant, c'est plus de la mendicité. Mais on est dans cette logique d'assistance à des personnes en souffrance, pas plus. On ne perd. L'UNRWA peut durer encore 100 ans comme ça, ça ne donne rien que ne donnerait un État palestinien réel.
L'UNRWA, il faut savoir qu'elle s'occupe de la Syrie. Et on l'envoie en Syrie, aux Palestiniens syriens, aux Palestiniens libanais, aux Palestiniens jordaniens.
Rappelons-le, il y a encore ce qu'on appelle les réfugiés ici ou là. C'est des gens qui sont, eux et leurs descendants, parce que ce n'est pas ceux qui sont partis en 49, en Syrie, au Liban et en Jordanie. Et qui vivent. Alors, c'est vrai que. Pour en avoir vu, je peux dire que c'est plus des tentes dans la plupart des cas. Ils ont eu le temps de bricoler ici avec quelques agglomérés, des bouées de morceaux, de se construire de l'habitat en dur. Mais c'est quand même des camps, c'est précaire. Il y a tout à l'égout plus ou moins. Des camps, c'est rien de plus. Non, mais tu as bien fait de poser la question parce qu'il y a eu effectivement un certain assouplissement des dons à l'UNRWA parce qu'il y a des gens des institutions comme l'Union européenne qui considéraient que c'était effectivement intenable de rester sur ces positions-là. Mais pour le gros, ça n'a pas bougé. Et c'est pas suffisant. Et j'en arrive à ce que je voulais dire, quelques mots que je voulais dire sur la Syrie. La Syrie, à propos d'armes chimiques. Alors tenez-vous bien. Vous savez qu'il y a un organisme qui s'appelle l'organisme d'interdiction des armes chimiques, qui est chargé donc de faire des enquêtes pour savoir si des armes chimiques ont été utilisées. Et cette institution vient de présenter un rapport à propos d'utilisation prétendue par la Syrie d'armes chimiques en 2014. Il y a eu donc un l'équipe d'enquêteurs qui est allée sur place. Hein, cet organisme a des enquêteurs qui sont des chimistes patentés, qui savent reconnaître les produits dangereux, qui se font ouvrir les portes, etc. Il n'y a pas de doute sur leur capacité. Ce qu'il y a d'intéressant, et en même temps de douloureux, c'est de constater qu'il a fallu que cette accusation de 2014 contre la Syrie d'avoir utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, souvenez-vous des expressions qu'on utilisait et tout, tombe 10 ans après. 10 ans après, après que il y a eu des pressions sur cet organisme pour qu'il envoie des enquêteurs, c'est facile de dire qu'on accepte les accusations, c'est le gouvernement syrien. Bon, finalement, il envoie des enquêteurs et il finit 10 ans après par reconnaître que ce n'était pas le gouvernement syrien qui avait utilisé ces armes chimiques. Mais il dit, on a trouvé, il y a effectivement eu des gaz chimiques, du gaz moutarde en particulier, qui ont été utilisés. Alors ça rétablit la vérité. Et il y avait un autre cas du même type. On en est, mais il faut 10 ans de retard. C'est-à-dire que l'accusation qui fait très mal le premier jour, Bachar el-Assad gaze son peuple. Alors là, ça passe en gros, en large, en long et en travers à toutes les heures du jour et de la nuit. 10 ans après, vous dites, c'était pas vrai. Ça passe inaperçu. C'est ça le phénomène. Alors, c'est pas propre à la Syrie. Tous les démentis qui mettent très très longtemps à arriver tombent dans le sable. Enfin,
mensonges, oui.
Oui, voilà, c'est des mensonges. Mais effectivement, il faut être à l'affût de ce type d'informations.
Le mal est fait, de toute façon.
Le mal est fait, voilà, le mal est fait, puisqu'il s'agissait de dire du mal de Bachar el-Assad et de son régime. Bon, ça c'était dit, c'était le but de la manœuvre. Et on sait qu'il y avait des gens qui manœuvraient en permanence pour ça, dont certains sont présidents du Conseil constitutionnel de la France. Bon.
Je ne sais pas si tu as en parlé, là, tu as en parlé. C'est au sujet d'Idleb avec ses manifestations.
Oui.
Je
ne
sais pas si tu es au
courant. Non.
Il y a eu presque 2-3 fois par semaine des manifestations contre les opposants armés syriennes à Idleb. Il s'agit de Jolani. Jolani, c'est le chef armé de cette opposition qui a fait d'Idleb un émirat. Voilà. Un émirat, quoi. Bon, voilà. Alors, en ce moment, le peuple se révolte et pratiquement tous les 2-3 jours, il y a une manifestation. Et bon, je pense que le problème d'Idleb avec cette opposition qui est patronné par la Turquie, va finir un jour ou l'autre d'ici peu.
Oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'effectivement, la Turquie soutient. En fait, ce qu'il y a d'important, c'est que la population maintenant locale commence à prendre position. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'elle était raquettée, rançonnée, menacée. C'était pas facile de s'opposer à ces gens-là qui avaient la gâchette facile. Hein. Ouais. Donc, on sent effectivement une évolution du rapport de force. Et donc, ça va dans le sens d'une maîtrise par le gouvernement syrien de la totalité de son territoire. C'est bien ça le but final de la manœuvre. Ouais. Voilà, et j'en reviens sur cette question de l'organisation contre l'interdiction des produits chimiques, qui dit que, en fait, donc je parle, les faits reprochés au gouvernement syrien remontent à 2014. Au début, il y a refus de l'organisme de faire une enquête, alors qu'elle a été demandée. Et puis finalement, c'est en 2018 que l'office en question se décide à envoyer des enquêteurs, qui ont donc mis un certain temps avant de donner leur rapport, puisqu'ils ont mis 4 ans. Et il faut savoir qu'il y a eu des gens aux États-Unis qui ont insisté pour que ces enquêtes reprennent, y compris des gens du niveau de Noam Chomsky et tout, en disant qu'effectivement, c'est trop facile d'enterrer des enquêtes, même si leur effet, ce que je viens de dire, est limité, dire on a menti et on ne veut pas que ça se sache. Ça finit par se savoir. Et le dernier point qui mérite d'être dit à ce sujet, c'est qu'un certain Seymour Hersh, vous avez entendu parler de lui, on en a beaucoup parlé de lui, ce fameux journaliste des États-Unis qui sait beaucoup de choses et qui a parlé en particulier des 2 gazoducs, a déclaré en 2011 qu'effectivement, lui, il savait très bien que c'était les États-Unis qui fournissaient la matière première aux djihadistes pour faire ces gaz de combat et ces gaz mortifères. Et tout ça passait, tiens, Habib, ça va te dire quelque chose, par la fameuse base d'Al-Tanf, Il faut savoir qu'il y a aux confins de la Jordanie et de la Syrie, donc dans le quart nord-est du pays, le sud-est du pays, une base américaine qui empiète. On ne sait pas si elle est en Jordanie, on ne sait pas si elle est en Syrie, puis personne ne veut le savoir. Mais de toute façon, les Américains sont des deux côtés. La frontière n'existe pas pour eux. Et donc, en partie, les matières premières ou même le gaz lui-même prêt pour le combat étaient fournis directement par l'armée des États-Unis.
C'est très facile pour fabriquer le gaz moutarde. C'est pas difficile.
Les matières premières étaient là, on apprenait la façon de s'en servir. Hein, et donc tout ça passait par des filières maîtrisées par les États-Unis. J'insiste là-dessus. Alors c'est facile. Alors là, c'est pas facile, mais montrer l'articulation entre les djihadistes et l'armée des États-Unis, c'est important de le faire. Parce qu'autrement, on se dit comment ça se fait ? Ah, on va mettre, comme ils disent, une coalition internationale pour réprimer les djihadistes. Oui, vous dites que vous allez les réprimer et en même temps, vous leur fournissez des gaz de combat. Hein ? Merci, merci, c'est trop gentil. Bien. Dernière chose. Je vais finir là-dessus. Oui, je regarde l'heure. Le Conseil, je donne le titre de mon article, le Conseil de la Ligue arabe affirme le soutien à la Syrie à restaurer l'ensemble du Golan occupé. Là, ça fait aussi partie des bonnes nouvelles. Ça fait aussi partie des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a eu une réunion de la Ligue arabe qui a parlé de ces problèmes-là.
Effectivement.
Et tous les ministres, ça veut dire donc les ministres de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, du Yémen, de tout le monde, hein, des Émirats arabes unis, ont décidé que l'évolution de la situation en République arabe syrienne fait que tout le monde considère que le Golan appartient à la Syrie et condamne les agressions israéliennes répétées contre le territoire syrien, saluant la prolongation de l'ouverture des points de passage de Bab al-Salama et d'Al-Raï, c'est donc au nord-ouest, hein, pour aller vers la Turquie, pour faciliter les efforts de secours et l'acheminement de l'aide vers le nord-ouest de la Syrie. Bon, voilà. Donc c'est important politiquement, la Ligue arabe soutient la Syrie et considère que le Golan appartient à la Syrie. Ce que la Syrie disait, mais elle s'est poumonnée toute seule puisque les autres ne reprenaient pas le propos à leur compte. C'est fait et je salue cette évolution positive.
Actuellement, je ne sais pas si tu es au courant, la résistance libanaise, Hezbollah, bombarde pratiquement... les colons qui se trouvent au Golan.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, c'est une façon de leur signifier qu'ils ne sont pas chez eux, c'est tout, qu'ils sont en Syrie.
Le fait chaque jour, pratiquement.
Voilà. Donc ça s'appelle joindre le geste à la parole, dire vous n'êtes pas chez vous et vous devez partir.
Exactement.
Et puis il y a
d'ailleurs, les colons, tous, ils sont retirés.
Ils sont.
Ils ont peur de recevoir des bombes sur la tête.
Voilà. Donc voilà, des évolutions petites mais très très importantes et qui vont dans le bon sens. Voilà, on vous remercie de votre attention, on remercie Roselyne, Habib.
Merci Rose.
Et on se retrouve demain soir, donc à 20h, pour parler de la mer Rouge, qui est une mer en feu, avec tous les pays qui l'abordent, qui sont impliqués dans des conflits de grande taille et de différentes natures.
Surtout le Yémen.
Surtout le Yémen, oui.
Vive le Yémen.
À bientôt.